Gauthier.
On pense que ce sera un succès, notre collègue Gab Marino qui est passé au Tim Hortons chercher des pizzas Tim Hortons.
Ouais.
Ouais. On a goûté à ça. Ça a bien du bon sens.
On en jasait hier à la fin de l'émission comme quoi ça arrivait dans les restos.
Genre focaccia.
C'est un peu focaccia. Hein? La croûte, là, c'est pas comme croûte farcie ou croûte de pizza normale.
Foc à quoi?
Focaccia? Moi, je sais de quoi tu parles.
Focaccia? Une focaccia. Une focaccia?
Je pensais que c'était une couleur.
Une focaccia? Non, c'est fuchsia la couleur. Okay. Mais t'étais proche. Ben, pain nan, pas pain nan, focaccia. Okay. Hey, va donc chez le bonhomme.
Est-ce quelqu'un qui peut me traduire au 418-971-102?
Non, y a-t-il quelqu'un qui peut éduquer Yannick sur la cuisine?
Parce que je connaissais les pannes pizza, je connaissais les pâtes régulières, mais ça, cette pâte-là, la je la connaissais pas.
Non? Mais normalement, c'est un petit pain, puis tu peux mettre comme de l'huile ou du beurre, mais c'est avec du romarin aussi. C'est, ma foi, délicieux, mais tu peux vraiment l'accompagner comme avec ce que tu souhaites. Mais la pizza thème est là-dessus.
Traducteur?
Éducation culinaire. La focaccia est un pain de forme plate et cuit au four. Il est originaire d'Italie. Il n'est pas nécessairement lié à la pizza, mais c'est le même style. La texture sont similaires, puis on met notamment là, des herbes,
grazie,
de la tomate.
Mangiamo.
Donc ça y ressemble. C'est pas ça, mais ça y ressemble.
Mais ça y ressemble.
Il va falloir que tu fasses un petit tour.
Ça y ressemble, comme ils disent.
Ça y ressemble.
Mais c'est très bon.
Ben oui, c'est bon.
Pour vrai, je suis surpris.
Merci à Gab Marino, notre collègue en or. Louis Gauthier, chroniqueur international. Salut, mon ami.
Bonjour, l'île d'Orléans.
ouais. Québec vit au rythme de l'île d'Orléans. Là, 2,7 milliards
Yannick,
de dollars.
Ça fait jaser dans les Morning Man Radio à travers le Canada aujourd'hui.
Ah ouais.
Ben oui.
Ils ont
tout le monde
parlé
veut s'acheter
ça?
Un vélo parce que là, on se ramasse avec une piste cyclable à 2,7 milliards au Canada. C'est une première.
Oui, il y a ça. Mais écoute, je regardais hier un article de Baltimore qui parlait de la reconstruction du fameux pont qui s'est écroulé en raison du fait qu'il y a un paquebot qui est rentré. Dans une des colonnes. Ça a fait en sorte que le pont a été écroulé au complet. Puis on parlait de quelques années pour le rebâtir. Puis on parlait aussi de 400 millions de dollars US pour le rebâtir. Là, je me disais, 400 millions de dollars US, quand même, ça ressemble peut-être à un genre de 600 000 Canadiens, si on fait un chiffre rond, là. Puis, je veux dire, c'est quand même un autoroute, ce pont-là, quand on regarde ça, comparativement à ce que nous allons avoir, c'est-à-dire un pont deux voies avec deux pistes, ben en fait, une piste cyclable chaque côté, 2,7 milliards de dollars, tandis qu'eux autres, si on met ça en Canadien, ça va être un genre de 700 millions. Il y a quelque chose qui se passe au Québec qu'on ne comprend pas, hein?
Puis d'autant plus que celui de Baltimore, il risque de coûter zéro, un coup nul, parce que le FBI mène une enquête aux criminels contre la compagnie portuaire maritime de Singapour.
Mais la compagnie portuaire s'est fait, mettons, faillite parce qu'elle est accusée aux criminels et elle doit se défendre, là. Il arrive quoi par la suite? Je veux dire, ça va avoir quand même des impacts assurément très importants dans un engrenage comme celui-là.
Je t'annonce que ça ne fera pas faillite parce que cette compagnie maritime-là est l'une des plus importants transporteurs de containers dans le monde. Ils ont à peu près 60 % des activités dans le port de Taipei, en Taïwan, pour amener les containers de chez Dollarama puis Walmart. Là, les bébés, vous achetez une pièce. Alors, eux autres sont très, très, très demandés. Et c'est même eux qui amènent au large du Pacifique Sud les containers de vidange là, que personne ne veut. Alors, je t'annonce que ça vaut des milliards et des milliards.
Puis ils vont payer ce qu'ils doivent s'il y a quelque chose.
Mais ils doivent avoir des assurances, là, tu sais, en cas de collision.
Oui, il y a des assurances, mais c'est parce que le FBI enquête là-dessus afin de savoir si les règles de vérification avant départ ont été faites correctement. Comme dans le transport, quand tu as des entreprises de camionnage qui sont prises dans des carambolages, on va aller fouiller les logs électroniques.
Peut-tu faire un parallèle particulier avec Lac-Mégantic dans tout ce qui avait été fait ou par rapport à gestion?
À la base, Pascal, tu as des vérifications qui doivent être faites sur tout véhicule mécanique commerciaux. Donc, ça comprend les camions, les trains, les bateaux, les avions. C'est à se demander pourquoi Boeing n'est toujours pas poursuivi avec les morceaux de pièces qu'elle perd depuis... ça fait 7 incidents, là, des morceaux de moteurs, des plaques qui tombent en plein vol là, au décollage, des trains routiers. Il n'y a pas d'enquête de fait là-dessus. Mais dans le cas de cette entreprise-là, c'est parce que ce n'est pas la première fois qu'elle est prise dans le monde avec des petits accidents. Celui-là, c'est le majeur qui est arrivé.
Ah, en tout cas, peu importe, on veut pas être le gars qui était pilote cette journée-là. Là.
Non. Ben, ils ont fait la job, regarde, ils ont vu qu'il y avait un problème. Ils ont jeté l'ancre à l'eau, mais il était déjà sur son élan.
Mais tu sais, les impacts que ça a, là. Je veux dire, des fois, tu fais des bad luck à ta job ou chez vous, tu te dis, hey, voyons donc, tabarouette. J'ai renversé le pot de peinture au grand complet sur mon plancher. J'étais en sacrament, ça te gâche ta journée. Imagine-toi le gars qui pilotait. Panne de courant dans tout le bateau, plus capable de contrôler le bateau, avertit tout le monde. On essaye de jeter l'ancre pour essayer de ralentir le bateau. Finalement, on rentre dans la colonne du pont. Pouf, le pont s'écroule au complet. Ben oui,
les gens tombent à l'eau.
Les mesures d'urgence ont été appliquées sur le champ, mais écoute, on va voir ce que l'enquête va démontrer. Mais s'il y a une enquête du FBI là-dedans, c'est pas pour rien, parce que c'est le gouvernement américain qui a demandé ça. Puis le gouvernement américain, c'est eux autres qui vont payer la reconstruction du pont, parce que c'est une autoroute fédérale. C'est la 695 qui contourne la 95.
Ouais.
C'est une autoroute périphérique.
Mais c'est ça. Juste pour revenir à ça, c'est bizarre qu'on parle de 400 millions pour rebâtir ce pont-là. En fait, pour être très honnête avec toi, là, ça commençait à 400 millions, les évaluations, puis ça pouvait aller jusqu'à 1 milliard de dollars US. Mais le 400 millions me surprit comparativement aux 2,7 milliards qu'on va avoir pour le pont de l'île. C'est pour ça que je te parlais de ça.
Hey, mais quelque part, Yannick, on va servir de la nouvelle carte qui est sortie hier, la Canadian Express, là, que Christopher Freeland a mis sur le terrain.
Ouais.
Fait que tout le monde va voir ça.
Hey, c'est fou, hein? Tu sais, toi, t'as... Bon, je veux pas te vieillir, Louis, mais t'étais là quand on a mis en place la TPS?
Oui.
Hein? On a mis... on a convaincu les Canadiens que c'était important, la TPS, pour qu'on puisse se payer des services à travers tout le Canada. Puis là, ben, toute la TPS qu'on paie, on est quoi? On est 30 millions de Canadiens à peu près. Mettons 40 millions
40
de Canadiens.
Millions.
On est 40 millions de Canadiens. Ben, chaque Canadien paie de la TPS à un montant qui est complètement fou. Puis chaque fois qu'on paie de la TPS, ça s'en va directement aux intérêts de la dette. C'est la première fois de l'histoire que ça arrive et on se relèvera jamais. Là.
Yannick, je suis un petit peu là-dedans dans les chiffres, là, puis je pourrais te dire, en partant, là, quand on a 40 milliards de dollars de dépenses, que tu as 19,5 millions qui vont être empruntés là-dessus, nos revenus ont augmenté de 48 % cette année, qui représente 161 milliards de dollars, alors que nos dépenses ont augmenté à 183 milliards de dollars, 51 %. Donc, tu comprends qu'il y a un manque à gagner entre les deux. Puis, il y a un budget, c'est une reddition de l'année. Ça n'a pas été fait. On ne connaît pas le flux de trésorerie, justement, sur l'argent emprunté. Quel impact que ça va avoir au cours de l'année? Je t'annonce que ça ne sera pas 40 milliards de dépenses qu'on va avoir. Ça va jauger aux alentours de 50-51 milliards de dollars. On s'en parlera le 31 décembre. Puis on parlera de ça un autre tantôt, parce que ça peut être long, puis on ne veut pas endormir les gens à l'heure du midi, puis empêcher notre belle Pascal de digérer son dîner.
Ouais. Hey, on parle d'actualité internationale. L'Iran qui veut emmener large, puis on raconte un peu l'histoire, c'est qu'Israël aurait bombardé certains endroits en Syrie. On aurait touché...
L'ambassade de Damas en Syrie.
On aurait touché effectivement l'ambassade de Damas. Les Iraniens ont promis de se venger. Ils ont envoyé des drones. On parle d'à peu près 200 drones qui ont été envoyés. La plupart des drones, je pense que c'est 99 % ont été interceptés autant par Israël que par les pays alliés, dont les Américains. Donc, ça n'a pas créé grand dommage. Là, quelques petits missiles qui sont tombés par-ci et par-là, mais ça n'a pas créé de gros dommages. Et là, l'Iran dit, ben là, si vous revengez, ça va être encore pire. Est-ce que l'Iran détient l'arme nucléaire? Est-ce que c'est pour ça qu'il essaie d'emmener large comme ça?
Bien, je dois te confirmer que oui, parce qu'avec l'attaque qu'ils ont fait samedi, ça fait foi de tout. Israël ne fait pas partie de l'OTAN, mais détient quand même l'arme nucléaire. Ça, on le sait qu'Israël a l'arme nucléaire. On sait que depuis 10 ans, l'Iran enrichit son uranium pour des fins, entre parenthèses, médicales. On sait qu'il y a eu beaucoup d'observateurs et de spécialistes de l'ONU qui sont allés voir sur place pour s'en assurer. Mais tu n'attaques pas un pays qui a l'arme nucléaire si tu ne l'as pas. Donc, ça vient confirmer que l'Iran a développé suffisamment son uranium, a enrichi son uranium suffisamment pour détenir ou être sur le point d'avoir la technologie pour créer l'arme nucléaire. Parce que ça ne se fait pas attaquer un pays qui a l'arme nucléaire si toi, tu ne l'as pas. Tu comprends?
Oui.
Alors là, ce matin, le président iranien Ibrahim Raisi a dit, écoute, nous autres, c'est bien clair, là, c'était un one-shot deal qu'on a fait. Puis ils ont averti immédiatement l'ONU que ça n'allait pas se reproduire. C'était dans le but de se de se venger de l'attaque sur l'ambassade où ça a tué deux généraux importants iraniens ainsi que 10 autres personnes. Et eux, tout de suite, sont allés voir l'ONU et ont dit, nous autres, c'est sûr que ça s'arrête là. Mais depuis le début, je le dis, lorsqu'on s'attaque aux Israéliens, on peut s'attendre à une riposte, mais cette riposte-là va durer combien de temps? Elle va se produire quand et de quelle façon?
Mais ça va être planifié comme les Iraniens l'avaient planifié. Ils avaient averti les Américains par l'entremise d'un autre pays, je pense que c'était la Suède, là, mais qui allait avoir des attaques en fin de semaine, et ça s'est fait. Bien, j'imagine qu'Israël fera la même chose. Ils passeront par un pays allié pour que le message soit passé en disant « Voici les endroits où on va bombarder, puis soyez prêts, arrangez-vous pour qu'il n'y ait personne dans le périmètre. »
Mais là, je dois dire, Yannick, qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui parlent à chacun des deux parties pour essayer de tempérer le jeu parce que ça déborde. Vous allez remarquer que les Iraniens ont fait ça, lonely. Ils ont personne de leur pays voisin, que ce soit le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Égypte. Il n'y a personne qui est intervenu là-dedans, même pas la Syrie est intervenue là-dedans. Pour la simple et unique raison qu'au Qatar, on a des bases américaines. En Égypte, on a des bases américaines. Il y a des ententes avec les États-Unis dans certains de ces pays-là. Puis là, bien, c'est important de finir, de terminer ce conflit-là sur la bande de Gaza parce que c'est en train d'avoir des proportions très, très larges. La raison pourquoi Israël avait attaqué l'Iran directement à son ambassade, c'est parce qu'on sait que l'Iran finance l'Hezbollah, finance le Hamas. Il y a eu des attaques venant des frontières de la Cisjordanie, de la bande de Gaza. On sait que c'était financé par l'Iran. L'armement vient de l'Iran, vient des Russes. On sait tout ça. Donc, là, ce qu'on a voulu faire quand on a attaqué le 1er avril, c'est sûr qu'on devait attendre des représailles du côté des Israéliens. Mais quand on a fait ça, c'était pour aller venger, pour aller éradiquer directement, envoyer un message très, très clair aux Iraniens. Là, vous arrêtez de financer, puis c'est la façon dont ça va arrêter. Alors,
Mais automatiquement, tu ajoutes un joueur dans tout ça, quand bien même que... Parce que ça pourrait être vu de la même manière, même si on s'entend Hamas, groupe terroriste et tout, là, par les pays qui aident fondamentalement en ressources d'autres pays en temps de guerre en ce moment. Mais c'est pas... Ce qu'on voit normalement, un genre de riposte de ce type-là, si ce n'est pas pour faire en sorte que la guerre prenne une certaine expansion, parce que ça doit être calculé dans un geste comme celui-ci, là.
Mais Pascal, c'est pas un nouveau pays. Il faut que tu comprennes que ce sont des éléments terroristes qui ont attaqué Israël, qui sont financés par un pays maître.
Oui,
là-dedans.
Mais quand tu vas attaquer, par exemple, l'ONU, quand tu vas attaquer, par exemple, l'ambassade de l'Iran, automatiquement, tu attaques l'Iran par rapport à un territoire. Et donc, malgré son engagement dans tout ce qui est financement, tu, fondamentalement, comme je dis, vas directement attaquer l'Iran pour la première fois.
Oui, oui, c'est une attaque directe. C'est une attaque directe, comme l'Iran a attaqué directement avec ses drones samedi, Israël.
Donc, tu ajoutes un joueur important, bien qu'il était là, un peu dans la cour.
Ça consolide peut-être les vrais joueurs en présence.
Oui, puis ça va extensionner les joueurs qui vont s'ajouter, parce que des alliés aussi avec l'Iran et des gens qui ont économiquement des ententes, qui vont vouloir... Puis là, c'est un effet boule de neige.
Oui, ça peut avoir un effet boule de neige, mais présentement, ce qu'on voit, c'est que tout le monde... demeure sur les lignes de côté, puis on essaie d'éviter le pire. Ouais. C'est ce qu'on essaie de faire. Ouais. Puis, il y a un autre joueur là-dedans, parce qu'il faut faire attention. Il y en a un autre qui voit aller ça, puis qui se dit, il y a tellement une faiblesse au niveau de la gouvernance internationale, c'est peut-être le temps que je fasse péter mes feux d'artifice aussi. Puis, il s'appelle Kim Jong-un en Corée du Nord. Ça, c'en a un autre qui peut intervenir. On le dit, de la famille des Huns, c'est le troisième à prendre le pouvoir et c'est le plus fêlé de la gang. Alors lui, c'est là, tous les yeux sont virés par là. Puis on sait que l'administration Biden menace de tripler les frais d'exportation des produits chinois pour que les Chinois interviennent auprès de la Corée du Nord pour qu'ils se tiennent tranquilles. Alors tu vois, il y a de la tension partout dans le monde présentement. Puis, ce qui est arrivé en fin de semaine, ça l'a amené une nouvelle marche dans l'escalade qu'on est en train de faire pour éviter le pire. Là. Parce que là, ça risque de... Tout le monde, chaque partie du monde est en train d'avoir ses petits conflits. Puis, ça peut ressembler à ça, la Troisième Guerre mondiale. C'est tous des petits conflits partout. des conflits de territoire, on essaie de consolider notre territoire, puis c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est très dangereux ce que Ibrahim Razi a dit ce matin, c'est que si jamais les Israéliens attaquent, puis ça revient à ma première question, ça démontre que l'arme nucléaire, si jamais Israël contre-attaque, on va éradiquer le territoire israélien. On va détruire complètement Israël. Donc, c'est des termes qui sont très, très forts, puis qu'il faut comprendre que oui, effectivement, ils ont enrichi plus qu'on pense son uranium pour créer l'arme nucléaire et il est peut-être plus près du but qu'on le pense.
Puis tu sais, c'est pas des gens qui sont très rationnels. Là. La religion est bien ancrée dans ces parties du monde-là. Puis tu sais, d'un bord, t'as les Juifs et de l'autre bord, t'as les musulmans extrémistes. Là. Ils s'entendront jamais, probablement.
Bien, on s'entendra jamais ou il y aura tout le temps une question qui ne sera pas réglée, c'est la terre de partage du plateau de Golan, ouais. La fameuse terre promise. Tu sais, ça remonte, on revient toujours à ça. C'est comment qu'on peut cohabiter dans cette région-là. Mais veux pas, t'as des têtes très, très, très extrémistes du côté iranien, comme t'en as des très, très extrémistes du côté israélien. Parce que le parti de Benjamin Netanyahou, c'est très simple. Son parti, il y a des éléments ultra-conservateurs. Tu sais, ce qu'on appelle de juif orthodoxe, là, c'est ultra-conservateur dans son parti. Puis eux autres ont des dispositions, des convictions très religieuses contre l'islam. Et du côté du gouvernement iranien, on a la même chose. On a des positions très, très extrêmement religieuses concernant le judaïsme. Donc, ça revient tout le temps à une question de religion
Et
un positionnement, justement, dans ce coin-là. Puis là, bien, veut pas, les Américains ont des alliés comme le Qatar, comme l'Arabie saoudite, comme l'Égypte. Donc, ça va être très important de voir comment que ça se passe. Et la balle est dans le camp des Israéliens. Alors, eux, s'ils décident de contre-attaquer, ça va nous amener à une autre escalade, puis on va voir. Mais là, au moment où on se parle, on discute énormément. Tous les acteurs, les alliés, autant d'un parti que de l'autre, se rencontrent pour éviter le pire dans tout ça.
Ouais. Mon guess, c'est qu'ils vont le faire, mais ça va être planifié comme les Iraniens l'ont planifié, puis que les Israéliens avaient été avertis d'avance comme quoi il allait avoir des attaques.
Mais Yannick, c'est justement, il faut absolument éviter que ça arrive.
Mais tout le monde veut essayer de sauver. Ouais, mais tout le monde veut sauver les apparences là-dedans. Là. Autant les Iraniens ne veulent pas perdre la face dans cette histoire-là, autant que les Israéliens disent non, quand vous vous attaquez à Israël, attendez-vous à avoir des répliques constantes. Là.
Puis le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne sont même pas membres de l'OTAN. Puis ils ont l'appui des pays de l'OTAN, comme ça se peut pas. Alors, ça démontre à quel point la communauté juive a une emprise, a beaucoup d'argent d'impliquer. C'est des acheteurs d'armes militaires, alors de plusieurs pays membres de l'OTAN. Donc, c'est important qu'on doit se parler. Mais comme je le disais la semaine dernière, Yannick, il n'y a pas personne qui veut peser ou qui veut tourner la clé de l'armement nucléaire dans son pays.
Exact. Louis Gauthier, je te souhaite bonne route. Un gros merci. On se reparle la semaine prochaine.
Sans problème. Bonne journée, Québec. Puis moi, je m'en vais m'acheter un vélo parce que quand je vais revenir à Québec, me promener sur une piste cyclable de 2,7 milliards. Il n'y a rien de plus merveilleux dans le monde.
Salut,
Louis. Salut, Louis.
Salut, bonne journée. Bye.
L'excellent Louis Gauthier, chroniqueur international. OK, nous autres, on a un concours qui circule sur cette station aussi.
Ben
ça
oui.
S'appelle le Rock and
Ball. C'est quoi ça, Yannick, le Rock
baseball.
And Ball? C'est du baseball. Puis quoi
c'est
d'autre?
C'est de la musique.
C'est les deux ensemble.
C'est Blink-182 puis les Giants.
Avec les Blue Jays.
Les Blue Jays en plus. Et voilà, beau trip qu'on vous offre à Boulevard 102 grâce à la belle collaboration de Variété 2020 qui est ton partenaire pour faire des économies. Un méchant beau trip. On vous envoie à San Francisco pour deux beaux événements. On vous offre deux billets pour la tournée réunion de Blink-182 Chase Center et deux billets pour aller voir les Giants de San Francisco contre les Blue Jays de Toronto au Oracle Park. Ça se passe en juillet prochain. On inclut ces deux événements-là, plus le vol, l'hébergement et l'argent de poche pour une valeur de combien? 4 000 $. Et pour participer à tout ça, c'est simple. Vous écoutez Boulevard 102 comme vous le faites super bien. Puis quand vous entendez une chanson de Blink-182, vous allez inscrire à quelle heure vous l'avez entendue dans notre section concours au blvd.fm. Puis il y a un finaliste qui est nommé chaque jour dans Gavel dans le retour parmi toutes les inscriptions qui vont être reçues. Jusqu'à quand? Jusqu'au 26 avril prochain. C'est deux participations par jour qui sont permises. Un gros merci encore une fois à Variété 2020 d'embarquer avec nous autres. C'est votre magasin de surplus d'inventaire à Québec.
13h01, participant grand nombre, on vient.
Marceau le